Chapitre 2. Les derniers versets du chapitre 1 nous rappellent que non seulement il nous est donné de croire en Christ, mais aussi de souffrir pour lui. Si Christ a dû rencontrer l'adversaire au long de son chemin à travers ce monde, nous pouvons être sûrs que plus les croyants manifesteront les caractères de Christ, plus grande sera l'opposition de l'ennemi. Nous devons donc être préparés pour le combat, tout comme les saints de Philippe qui, étant les objets de tant de grâce de la part de Christ, se trouvaient, pour cette raison même, confrontés à des adversaires. Ce deuxième chapitre nous apprend que l'ennemi cherchait à nuire au témoignage qu'il rendait à Christ, non seulement par des adversaires venus du dehors, mais aussi en suscitant la discorde parmi les chrétiens. Dans les deux premiers versets, l'apôtre attire notre attention sur ce grave danger. Les versets 3 et 4 nous enseignent ensuite que l'unité parmi les enfants de Dieu ne peut être maintenue que si chacun demeure dans l'humilité. Et pour que celle-ci soit produite, nos regards sont dirigés vers Christ, comme l'expriment les versets 5 à 11. Résultat béni, ceux qui vivent selon ce modèle d'humilité deviendront des témoins de Christ, ainsi que le montrent les versets 12 à 16. Enfin, le chapitre se termine en plaçant devant nous trois exemples de croyants dont les vies ont été façonnées d'après le parfait modèle et caractérisées ainsi par cette humilité qui s'oublie pour ne s'occuper que des autres. Versets 17 à 30. Versets 1 et 2. Citation de l'Écriture. Si donc il y a quelque consolation en Christ, si quelque soulagement d'amour, si quelque communion de l'esprit, si quelque tendresse et quelque compassion, rendez ma joie accomplie en ceci, que vous ayez une même pensée, ayant un même amour, étant d'un même sentiment, pensant à une seule et même chose. Fin de citation. L'apôtre reconnaît avec joie que grâce au dévouement et à la générosité des saints envers lui dans toutes ses épreuves, il avait goûté quelque chose des consolations que l'on trouve en Christ et en ceux qui lui appartiennent. Il avait été réconforté par leur amour et par leur communion découlant du fait que l'Esprit occupait leur cœur de Christ et de ses intérêts. Il avait une nouvelle fois fait l'expérience de la compassion de Christ manifestée à travers eux envers quelqu'un qui endurait l'affliction. Toutes ces preuves de leur dévouement lui donnaient une grande joie. Mais il voyait que l'ennemi cherchait à ruiner leur témoignage commun en suscitant parmi eux des querelles. C'est pourquoi il doit dire « Rendez ma joie accomplie en ceci, que vous ayez une même pensée, ayant un même amour, étant d'un même sentiment, pensant à une seule et même chose. » Avec une grande délicatesse de sentiment, l'apôtre fait allusion à ce manque d'unité. Mais il en sent évidemment tout le sérieux, puisqu'il touche ce sujet quatre fois au cours de son épître. Dans le premier chapitre, il exhorte les saints à tenir ferme dans un seul et même esprit, verset 27. Il les invite ici à avoir une même pensée. Dans le troisième chapitre, il leur dit « Marchons dans le même sentier », verset 16. Et dans le dernier chapitre, une exhortation est adressée à deux sœurs pour qu'elles aient une même pensée dans le Seigneur. Verset 2. Versets 3 et 4. Citation de l'Écriture. Que rien ne se fasse par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que, dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même, chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres. Fin de citation. Après avoir fait une allusion discrète à cette faiblesse qui se manifestait parmi eux, l'apôtre montre maintenant que le seul remède à cela est l'humilité cultivée par tous. Il les met en garde contre le danger de faire quoi que ce soit par esprit de parti ou par vaine gloire. Ce sont les deux causes majeures du manque d'unité parmi ceux qui appartiennent au Seigneur. Ce n'est pas que nous devions être indifférents au mal qui peut surgir au sein du peuple de Dieu, mais nous sommes mis en garde contre le danger d'y répondre avec un esprit contraire à celui de Christ. Trop souvent, hélas, les troubles qui surgissent dans une assemblée sont des occasions de mettre en lumière des sentiments non jugés de jalousie, de méchanceté ou de vanité qui couvaient dans les cœurs. Il s'ensuit des querelles. Nos luttes visent à nous rabaisser les uns les autres, dans la poursuite de cette vaine gloire qui cherche à exalter le moi. Combien nous avons besoin de juger nos propres cœurs ? Car comme quelqu'un l'a fait remarquer, il n'y en a pas un parmi nous qui n'attache pas une certaine importance à lui-même. Pour éviter ce danger, nous voyons bien l'utilité de l'exhortation que dans l'humilité l'un estime l'autre supérieur à lui-même. Nous ne pouvons la réaliser que dans la mesure où nous détachons nos regards de nous-mêmes et de nos qualités personnelles pour considérer celles des autres. Le passage ne parle pas de dons, mais de qualités morales qui devraient caractériser tous les saints. Il ne considère en outre que des saints en bon état moral. Quand un frère vit dans le mal, je ne suis pas exhorté à l'estimer supérieur à moi-même si je vis droitement. Mais entre croyants ayant une conduite normale, c'est-à-dire droite, il est facile à chacun d'estimer l'autre supérieur à lui-même, à condition d'être près du Seigneur. En effet, dans sa présence, aussi correcte que soit notre vie extérieure aux yeux des autres, nous découvrons la méchanceté cachée de notre chair. Nous voyons combien nos défauts sont nombreux et quelles pauvres créatures nous sommes devant lui et en comparaison de lui. Par contre, en regardant notre frère, nous ne voyons pas ses défauts cachés, mais plutôt les qualités que la grâce de Dieu lui a données. De telles dispositions nous garderont sûrement dans l'humilité et permettront à chacun d'estimer l'autre supérieur à lui-même. Nous serons délivrés de cet esprit de vaine gloire qui engendre les querelles et brise l'unité des saints. Il est clair, alors, que la véritable unité dans le peuple de Dieu n'est pas le fruit d'un compromis aux dépens de la vérité. Elle vient du bon état moral de chacun devant le Seigneur, état qui se traduit par l'esprit d'humilité. Versets 5 à 8. Citation de l'Écriture. Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus, lequel, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. Fin de citation. Pour produire en nous cette humilité, l'apôtre dirige nos regards vers Christ en disant « Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. » Il fait ensuite une magnifique description de l'humilité que Christ a manifestée lorsqu'il a pris le chemin qui descendait de la gloire divine jusqu'à la honte de la croix. Christ est ainsi placé devant nous, dans toute sa grâce et son humilité, comme notre parfait modèle. Si le troupeau suit le berger, les yeux des brebis sont fixés sur lui. Et ce n'est que dans la mesure où chacun de nous regarde à lui que l'unité sera maintenue dans le troupeau. Plus nous serons près de Christ, plus nous serons près les uns des autres. En Christ sont mis en évidence les traits admirables de quelqu'un de parfaitement humble. Il met de côté toute recherche de lui-même, prenant le chemin du serviteur, et devenant obéissant jusqu'à la mort. En évoquant ce chemin, l'apôtre nous montre non seulement chaque étape de cet abaissement, mais aussi l'esprit, celui d'humilité, dans lequel Christ marcha. Il nous est impossible de mettre nos pas dans chacun des siens, car nous n'avons jamais été à sa hauteur, et il ne nous est pas demandé de descendre dans les mêmes profondeurs que lui. Nous sommes toutefois exhortés à marcher sur ses traces, en ayant la même pensée que lui. Premièrement, nos regards sont d'abord dirigés vers Christ, occupant la place la plus élevée, en forme de Dieu. C'est d'une telle place qu'il s'est anéanti lui-même. Sa pensée a été de n'avoir pour lui-même aucune considération. Pour accomplir la volonté de son Père et assurer la bénédiction des siens, il était prêt à prendre la dernière place. comme il a pu le dire, touchant sa venue dans le monde, « Voici, je viens, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Hébreux 10, verset 7. Deuxièmement, c'est avec cette pensée que le Seigneur prit la forme d'esclave. Lorsqu'il était sur la terre, il pouvait dire à ses disciples, « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Luc 22, verset 27. Quelqu'un a dit, « Non seulement Christ a pris la forme d'esclave, mais il ne l'abandonnera jamais. » En Jean 13, au moment où notre Sauveur béni allait entrer dans la gloire, nous aurions pu dire que c'était la fin de son service. Il n'en est rien. Quittant la place qu'il occupait, assis au milieu des siens comme leurs compagnons, il se lève pour leur laver les pieds, et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. En Luc 12, nous apprenons qu'il continue ce service dans la gloire. Il se ceindra et les fera mettre à table, et s'avançant, il les servira. Il ne cesse jamais de servir. L'égoïsme aime être servi, mais l'amour aime servir. Ainsi, Christ ne cesse jamais de servir, car il ne cesse jamais d'aimer. Pensée de J.N. Darby. Troisièmement, non seulement le Seigneur prit la forme d'esclave, mais il fut fait à la ressemblance des hommes. Il aurait pu continuer à servir tout en étant à la ressemblance des anges, puisque ceux-ci sont envoyés comme serviteurs, mais il a été fait un peu moindre que les anges, étant trouvé en figure comme un homme. Quatrièmement, si le Seigneur a été fait à la ressemblance des hommes, il a refusé de tirer parti de cette condition pour s'élever au-dessus des hommes. Son humilité l'a conduit à s'abaisser lui-même. À sa naissance, il a été couché dans une crèche, et il a vécu parmi les humbles de ce monde. Cinquièmement, bien qu'il se soit abaissé lui-même pour marcher avec les humbles, il aurait pu prendre une place d'autorité dans ce monde. La place lui revient de droit. Toutefois, dans son humilité, il est devenu obéissant. En entrant dans le monde, il dit « Voici, je viens, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » En le traversant, « Je fais toujours les choses qui lui plaisent. » Et en le quittant, « Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Sixièmement, dans son humilité, le Seigneur devint non seulement obéissant, mais obéissant jusqu'à la mort. Septièmement, dans son humilité encore, le Seigneur n'a pas seulement affronté la mort, mais il s'est soumis à la mort, la plus ignominieuse qu'un homme puisse endurer, la mort de la croix. Lorsque nous suivons ce chemin merveilleux qui descend toujours plus bas, depuis la gloire suprême jusqu'à la honte de la croix, ne nous contentons pas d'être simplement des admirateurs de ce qui est moralement si beau, ce que peut faire l'homme naturel lui-même. Nous avons besoin de la grâce, non seulement pour admirer, mais pour que cela produise des effets pratiques dans nos vies, selon l'exhortation de l'apôtre, qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. À la lumière de cette humilité que l'on voit en Jésus, nous ferons bien d'interpeller nos cœurs pour voir dans quelle mesure nous avons jugé cette vaine gloire qui nous est si naturelle, et chercher humblement à nous oublier nous-mêmes afin de servir les autres avec amour. C'est de cette manière que nous manifesterons quelque chose de la grâce et de l'humilité de Christ. Versets 9 à 11. Citation de l'Écriture. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes et terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Fin de citation. Cependant, si nos cœurs sont attirés vers Christ en voyant la grâce et l'humilité qui l'ont fait s'abaisser de la gloire à la croix, nous voyons aussi en lui le plus parfait exemple de cette vérité, « Celui qui s'abaisse sera élevé. » Luc 14, verset 11. Il s'est abaissé lui-même. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé. si dans son humilité il est descendu plus bas que tous, Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom et l'a exalté au-dessus de tous. Dans l'Écriture, le nom met l'accent sur la renommée d'une personne. Il y a eu bien des hommes célèbres dans l'histoire du monde et parmi les saints de Dieu, mais le renom de Christ comme homme surpasse tous les autres. Sur la montagne de la Transfiguration, les disciples, dans leur ignorance, auraient voulu mettre Moïse et Élie sur le même plan que Jésus. Mais ces grands hommes de Dieu s'effacent de la vision et les disciples ne virent plus personne, sinon Jésus seul, tandis que la voix du Père proclamait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Le nom de Jésus exprime qui est cet homme humble. Nous savons qu'il signifie « sauveur » et comme tel, c'est un nom au-dessus de tout nom. Ne peut-on pas dire que c'est le seul nom que le Seigneur ne pouvait porter à juste titre qu'en descendant de la gloire jusqu'à l'ignominie de la croix? Sur la croix était écrit « Celui-ci est Jésus ». Les hommes, dans leur mépris, disaient « Qu'il descende maintenant de la croix ». S'il l'avait fait, il aurait abandonné le nom de Jésus. Il aurait toujours été le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, mais plus jamais il n'aurait été Jésus, le Sauveur. Béni soit son nom. Son humilité l'a conduit à être obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et il en résulte qu'au nom de Jésus, tout genou se ploiera et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Versets 12 et 13. Citation de l'Écriture. Ainsi donc, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Fin de citation. Après avoir dirigé nos regards vers Christ, dans toute sa grâce et son humilité, l'apôtre nous exhorte à juger toutes les tendances de la chair à la contestation et à la vaine gloire, et nous invite à marcher dans l'esprit d'humilité de Christ, notre modèle, en résistant ainsi aux efforts que fait l'ennemi pour semer la discorde parmi les saints. Lorsqu'il était présent parmi ses croyants, l'apôtre les avait gardés des attaques de l'ennemi, mais maintenant, beaucoup plus encore du fait de son absence, il devait se méfier des adversaires du dehors et des querelles du dedans. En marchant dans l'esprit d'humilité de Christ, ils travailleraient vraiment à leur propre salut. Ils triompheraient de tous les efforts de l'ennemi en vue de détruire leur unité et de ruiner leur témoignage pour Christ. Mais c'est avec crainte et tremblement qu'ils devaient travailler à cette délivrance. Si nous avons conscience du caractère séducteur du monde qui nous entoure, de la faiblesse de la chair qui est en nous, et de la puissance satanique qui est contre nous, nous avons bien des raisons de craindre et de trembler. Mais cette crainte et ce tremblement ne se rapportent-il pas aussi à ce qui suit? L'apôtre en effet ajoute aussitôt « Car c'est Dieu qui opère en vous ». Tout en n'oubliant pas la puissance formidable qui est contre nous, nous devons craindre de sous-estimer, et donc de mépriser, la toute-puissance qui est pour nous et qui opère en nous, et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu ne nous amène pas seulement à faire, mais à vouloir faire ce qui est son bon plaisir. Là est la vraie liberté. Sans le vouloir, le faire ne serait qu'un simple légalisme servile. Naturellement, nous aimons faire notre propre volonté pour notre plaisir à nous, mais le travail de Dieu en nous nous amène à vouloir faire ce qui est son bon plaisir, et avoir ainsi l'humilité de Christ, notre modèle, qui pouvait dire « C'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir. » Psaume 40, verset 8. Versets 14 à 16. Citation de l'Écriture. Faites toutes choses sans murmure et sans raisonnement, afin que vous soyez sans reproche et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération tortue et perverse, parmi lesquels vous reluisez comme des luminaires dans le monde, présentant la parole de vie, pour ma gloire au jour de Christ, en témoignage que je n'ai pas couru en vain, ni travaillé en vain. Fin de citation. ayant les yeux fixés sur Christ, et dans la mesure où nous avons son esprit d'humilité, nous serons à l'abri des séductions du monde et du pouvoir de l'ennemi. Nous serons alors un témoignage pour Christ devant le monde. C'est là certainement le bon plaisir de Dieu, ainsi qu'il a été pleinement manifesté en Christ, lui qui a pu dire « Moi, je fais toujours les choses qui lui plaisent. » Jean 8, verset 29. Les exhortations qui suivent présentent ainsi un merveilleux portrait de Christ. Nous devons faire toutes choses sans murmure et sans raisonnement. Le Seigneur, en fait, a gémi devant les souffrances des hommes, mais aucun murmure n'a jamais franchi ses lèvres. On a dit fort justement « Dieu permet un gémissement, mais jamais un murmure. » Puis nous sommes mis en garde contre les raisonnements. Ils pourraient mettre en question les voies de Dieu à notre égard. Aussi douloureux que fut le chemin du Seigneur, aucun raisonnement quant aux voies de Dieu ne fut l'objet de ses pensées ou de ses propos. Au contraire, lorsqu'il dut constater que tout son ministère de grâce n'avait pas touché les cœurs des hommes, et qu'il fut accusé d'avoir accompli ses œuvres par la puissance du diable, il put dire « Oui, Père, car c'est ce que tu as trouvé bon devant toi. » Matthieu 11, verset 26. Il est bon pour nous, lorsque nous recevons quelques insultes ou que nous rencontrons une épreuve, de marcher sur ses traces et de nous soumettre sans raisonnement à ce que Dieu permet dans l'esprit d'humilité du Seigneur. En agissant dans cet esprit, nous serons sans reproche devant Dieu et purs devant les hommes. Ces mots expriment encore quelque chose de la perfection de Christ, car il était innocent, sans souillure, séparé des pécheurs. Hébreux 7, verset 26. En suivant ses traces, nous devrions être des enfants de Dieu irréprochables. Le Seigneur a pu dire « À cause de toi, j'ai porté l'opprobre. » Psaume 69, verset 7. Mais jamais aucun reproche fondé n'a pu lui être fait. Au contraire, les hommes ont dû dire « Il fait toutes choses bien. » Marc 7, verset 37. Nous avons nous aussi le privilège de porter l'opprobre pour son nom, mais prenons garde, dans nos manières d'agir et de parler, à tout ce qui est inconvenant pour des enfants de Dieu et qui donnerait ainsi occasion à des reproches justifiés. Par une marche droite, irréprochable, nous devrions manifester que nous sommes les enfants de Dieu au milieu d'une génération dont les mœurs dévoyées et perverses prouvent qu'elle n'a pas de relation avec Dieu. Moïse, en son temps, témoigne que Dieu est un Dieu fidèle et il n'y a pas d'iniquité en lui. Il est juste et droit. Mais il doit ajouter aussitôt qu'il se trouve au milieu d'un peuple qui s'est corrompu à son égard. Leur tâche n'est pas celle de ses fils, c'est une génération tortue et perverse. Deutéronome 32, versets 4 et 5. Malgré la lumière du christianisme, le monde n'a pas changé. C'est toujours un monde où les hommes se réjouissent à mal faire, dont les sentiers sont tortueux et qui s'égarent dans leur voie. Proverbe 2, verset 15. Nous sommes laissés dans un tel monde pour y reluire comme des luminaires, pour y présenter la parole de vie, suivant ainsi les traces du Seigneur. Lui a été la lumière du monde et a dit « Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. » La lumière évoque ce que quelqu'un est plutôt que ce qu'il dit. Présenter la parole de vie parle du témoignage rendu en proclamant la vérité de la parole de Dieu. Nos vies doivent refléter quelque chose de la perfection de Christ pour que nos paroles annoncent le chemin de la vie. Si, comme résultat du ministère de l'apôtre, les saints étaient amenés à avoir l'humilité de Christ et à devenir ainsi ses témoins, l'apôtre pourrait se réjouir de ne pas avoir couru en vain ni travaillé en vain. Ici, en ce qui le concerne, il semble faire une distinction entre la vie et le témoignage. En effet, courir dirige nos pensées vers sa manière de vivre et travailler vers son ministère. Ces sept exhortations de l'apôtre nous offrent un tableau touchant d'une vie vécue conformément au parfait modèle que nous avons en Christ. Une vie sans murmure quant à notre sort, sans raisonnement sur le pourquoi de telle ou telle épreuve rencontrée sur le chemin, une vie irréprochable quant à ce que nous disons ou faisons, une vie pure, qui évite tout mal infligé aux autres par des paroles ou des actes, une vie dans laquelle il n'y a rien qui puisse nous attirer le reproche d'être des enfants de Dieu inconséquents, une vie qui brille comme un luminaire dans un monde de ténèbres et qui présente la parole de vie dans un monde où règne la mort. En vivant ainsi, nous réjouirions le cœur de Dieu, nous glorifierions Christ, nous aiderions les saints, nous serions en bénédiction au monde et nous aurions notre récompense au jour de Jésus-Christ. Si tous les saints, les yeux fixés sur Jésus, menaient cette vie merveilleuse, il n'y aurait pas de discorde parmi les chrétiens. Nous serions un seul troupeau suivant un seul berger. Versets 17 et 18. Citation de l'Écriture. Mais si même je sers d'aspersion sur le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis joyeux et je m'en réjouis avec vous tous. Pareillement, vous aussi, soyez-en joyeux et réjouissez-vous-en avec moi. Fin de citation. Dans le reste de ce chapitre sont placés devant nous trois exemples de croyants vivant alors qui, dans une grande mesure, manifestèrent cette humilité de Christ, s'oubliant eux-mêmes pour servir les autres et qui, pour cette raison, brillèrent comme des luminaires dans ce monde et présentèrent la parole de vie. Tout d'abord, dans l'apôtre lui-même, l'Esprit de Dieu veut nous faire voir quelqu'un qui a vécu ayant Christ pour modèle. La foi des saints de Philippe, en subvenant aux besoins de l'apôtre, avait fait un sacrifice pour le servir. Mais si, malgré ce service, son emprisonnement devait aboutir à la mort, il se réjouirait encore d'avoir eu le privilège de souffrir pour Christ et il leur demande de s'en réjouir avec lui. C'est ainsi qu'il fait preuve de cette humilité qui, par égard pour les autres, le rend capable de s'oublier lui-même et de suivre Christ jusqu'à la mort. Versets 19 à 24. Citation de l'Écriture. Or, j'espère dans le Seigneur Jésus, vous envoyez bientôt Timothée, afin que moi aussi j'aie bon courage quand j'aurai connu l'état de vos affaires. Car je n'ai personne qui soit animé d'un même sentiment avec moi pour avoir une sincère sollicitude à l'égard de ce qui vous concerne. Parce que tous cherchent leurs propres intérêts, non pas ceux de Jésus-Christ. Mais vous savez qu'il a été connu à l'épreuve, savoir qu'il a servi avec moi dans l'Évangile comme un enfant sert son père. J'espère donc l'envoyer incessamment quand j'aurai vu la tournure que prendront mes affaires. Mais j'ai confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai vous voir bientôt. Fin de citation. Paul passe ensuite à Timothée. Il en parle comme de quelqu'un qui est animé d'un même sentiment que lui, qui est marqué du sceau de cette humilité qui fait que l'on s'oublie soi-même pour penser au bien des autres. L'état général de l'Église primitive, déjà au temps de l'apôtre, avait hélas tellement décliné, était si loin de porter la marque de cet amour qui s'oublie lui-même, qu'il doit dire « Tous cherchent leurs propres intérêts, non pas ceux de Jésus-Christ ». En Timothée, l'apôtre avait trouvé quelqu'un qui avait de la sollicitude pour les autres et qui servait avec lui dans l'Évangile en présentant la parole de vie. Comme Timothée portait la marque de l'humilité de Christ, Paul pouvait se servir de lui pour prendre soin des saints, et il espérait l'envoyer à l'assemblée de Philippe dès qu'il connaîtrait l'issue de son jugement. Versets 25 à 30. Citation de l'Écriture. Mais j'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre et mon compagnon d'armes, mais votre envoyé et ministre pour mes besoins. Car il pensait à vous tous avec une vive affection, et il était fort abattu, parce que vous aviez entendu dire qu'il était malade. En effet, il a été malade, fort près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin qu'en le revoyant, vous ayez de la joie, et que moi j'ai moins de tristesse. Recevez-le donc dans le Seigneur avec toutes sortes de joie, et honorez de tels hommes, car, pour l'œuvre, il a été proche de la mort, ayant exposé sa vie, afin de compléter ce qui manquait à votre service envers moi. Fin de citation. Finalement, en Épaphrodite, nous avons un exemple frappant de cette humilité qui s'oublie dans l'ardent désir de faire du bien aux autres. Épaphrodite n'était pas seulement un frère en Christ, mais un compagnon dans l'œuvre du Seigneur, un compagnon d'armes dans le combat pour la vérité, un envoyé des saints et un ministre pour les besoins de l'apôtre. Dans son amour désintéressé, il pensait aux saints avec une vive affection, et il était fort abattu à l'idée qu'il puisse être excessivement inquiet à son sujet à cause de sa maladie. Il avait été en effet fort près de la mort, mais, par la grâce de Dieu, il avait été épargné. Paul, maintenant, sans penser à lui-même ni au fait qu'un ami aussi précieux allait beaucoup lui manquer, envoie ce serviteur bien-aimé aux Philippiens pour leur joie. C'est avec toutes sortes de joie qu'ils peuvent recevoir dans le Seigneur et honorer un tel homme. L'apôtre ajoute quelques mots qui montrent admirablement quel est cet honneur si précieux aux yeux de Dieu. Épaphrodite était remarquable par sa fidélité dans l'œuvre de Christ, et rempli d'humilité, il était prêt, suivant l'exemple de Christ, à affronter la mort dans son service pour les autres. Étant donné qu'en ces commencements de l'Église, tous cherchaient déjà leurs propres intérêts, et que les saints n'étaient plus animés d'une même pensée avec l'apôtre, nous ne devons guère nous étonner si, dans ces temps de la fin, le peuple de Dieu est divisé et dispersé. Quelqu'un a dit « Il est peu probable que nous soyons jamais un seul cœur, avant de connaître la joie d'être tous ensemble dans un seul ciel. » Toutefois, encouragés par ces exemples admirables de croyants caractérisés par leur humilité, détachons nos regards de toute la ruine qui nous entoure et fixons-les sur Christ, notre divin modèle, en nous efforçant de marcher selon sa pensée. Nous deviendrons ainsi, dans une petite mesure, des témoins de Christ et traverserons ce monde selon le bon plaisir de Dieu.